Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
8h45, c'est le petit déjeuner de l'actu dans quelques minutes, en attendant la revue de presse avec Benjamin Glaise.
Oui, Benjamin, alors ce dossier sur les réseaux sociaux présenté par Le Figaro, hein, comme la nouvelle tentation des politiques.
Oui, des réseaux sociaux qui occupent une place privilégiée dans la stratégie électorale en vue de 2022. L'épidémie d'ailleurs ne fait qu'accentuer ce phénomène. Et dernière illustration en date pour Emmanuel Macron, c'est le défi lancé aux youtubeurs McFly et Carlito, défi relevé d'atteindre les 10 millions de vues dans une vidéo rappelant les gestes barrières des influenceurs. Maintenant attendu à l'Élysée pour participer à un concours d'anecdotes avec le chef de l'État. L'Élysée, où l'on se targue d'ailleurs depuis longtemps de loger en la personne d'Emmanuel Macron, le deuxième influenceur mondial sur le réseau professionnel LinkedIn. Mmh. Ailleurs, sur la plateforme Twitch, eh bien, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a lancé son émission mensuelle, pendant que l'ancien président François Hollande a été lui l'invité hier soir du journaliste Samuel Etienne. Mais attention à nuance dans le Figaro, un spécialiste de l'influence digitale. Conquérir un public jeune, ça ne signifie pas le convertir immédiatement en vote.
Oui, c'est vrai. À la une de la Dépêche du Midi aussi, le naufrage industriel de Bosch à Rodez.
Oui, car faute d'avoir modernisé son site voué au diesel, eh bien, l'équipementier allemand va supprimer plus de la moitié des emplois, 750 postes au total d'ici à 2025. Le ministère de l'Économie affirme qu'une fermeture totale du site Bosch Rodez a pu être évitée, mais ça reste néanmoins un drame, bien entendu, pour la région. Du côté de la Provence, les péripéties de la ligne ferroviaire Nice-Marseille. Reprenons du début, peut-on lire en une, et pour cause, ce projet de nouvelle ligne Provence-Côte d'Azur, c'est 30 années de débats et d'études avec au bout 4 projets enterrés. Une nouvelle concertation est en cours jusqu'au 15 avril avant le démarrage de l'enquête publique qui décidera ou non d'ouverture du chantier en 2024. Et puis dans Midi Libre, cette mauvaise nouvelle pour les vacanciers, le parking payant partout dorénavant pour accéder aux plages. Bah oui, Moguio ou encore la Grande Motte s'apprête à installer des horodateurs sur les derniers accès qui étaient encore gratuits pour le littoral montpelliérain. L'opposition, elle s'organise. Une pétition a même été lancée.
Oui, bon, bah écoutez, c'est à suivre. Merci à vous. On poursuit avec Nicolas Rebière, directeur de la publication de la République des Pyrénées, qui est avec nous. Bonjour Nicolas.
Bonjour, bonjour à tous.
Parmi les sujets, alors, le procès d'un chef d'entreprise qui avait tué un jeune à Pau après une embrouille d'automobilistes, c'est ça?
Oui, c'est ça. C'est un procès qui est très, très attendu, très regardé sur Pau. Oui. C'était en 2016, en plein été. Il s'est passé ce qui arrive à tant de gens. Une voiture qui vous colle un peu trop, un automobiliste un peu agressif. Le chef d'entreprise, Frédéric de Chéroncé, qui comparaît libre, s'arrête au feu rouge. Un jeune homme descend, Baptiste Salefranc, tape sur la voiture. Et de Chéroncé, dont la vie paraissait loin de la cour d'assises, sort de sa voiture, plante un coup de couteau au jeune homme qui décède. Le procès a débuté hier hier on a parlé de la personnalité de cet accusé. Bon, certes, bien de tout rapport, même s'il y a quelques détails dans sa vie qui ont pu laisser entendre qu'il n'a pas une vie parfaite non plus, mais, comme tout le monde. Et je pense que c'est très regardé parce que ce procès raconte un meurtre finalement entre deux automobilistes qui ne se connaissaient pas, qui ne s'étaient jamais croisés et qui ne se croiseront plus jamais.
Ah oui, non, c'est vrai. Bon. Donc c'est à suivre toute la semaine alors ce procès.
Alors c'est sur plusieurs jours effectivement. Là aujourd'hui par exemple, ce mardi, on doit voir la personnalité du jeune homme Baptiste Salefranc, qui était originaire de Dax, qui a eu quelques démêlés avec la justice, mais qui non plus n'avait pas, forcément rendez-vous aux assises. Alors lui, il n'a pas rendez-vous puisqu'il est décédé suite à cette affaire dramatique qui s'était passée en quelques secondes évidemment.
Oui, merci beaucoup Nicolas Rebière. J'attire aussi l'attention des lecteurs de la République des Pyrénées ce matin sur la section paloise, les supporters sont inquiets, parce que ça se rapproche dangereusement de la relégation.
Exactement, et puis c'est Grégory de Thor, notre journaliste sportif qui suit la section, qui le note. Finalement, Pau est aux prises avec Montpellier et Bayonne, et ça rappelle de très mauvais souvenirs en 2006, quand la section avait quitté l'élite du rugby français, avant de remonter en 2015, c'était exactement avec le même casting de barragistes.
Bien sûr, donc c'est mal barré, comme on dit. Merci Nicolas Rebière, à lire dans La République des Pyrénées ce matin.
Et on continue le petit déjeuner de l'actu ce matin avec Elisabeth Lévy et Eric Revel. Vos appels, hein, comme tous les matins, 0826 300 300. Et on va certainement revenir sur cette vaccination et ses médecins, Patrick. Hein.
Oui, absolument. Alors nous sommes avec peut-être non le maire de Champigny, pas encore Laurent Jeanne. Nous devrions être avec lui. Nous sommes donc avec Elisabeth Lévy et Eric Revel. Elisabeth, donc puisqu'on doit parler de Champigny dans un instant. Ce que vous avez dit tout à l'heure, hein, dans votre édito, c'est que c'est une fausse bonne idée, l'armée dans les banlieues, là, qui a été évoquée à un moment donné. Hein.
Bah oui, d'abord, écoutez, ça n'est vraiment pas le rôle de l'armée. Hein. L'armée défend nos frontières, ce qui est déjà pas mal, et c'est pour ça qu'elle s'entraîne. Et par ailleurs, même si c'était son boulot, vous imaginez bien, cher Patrick, que si on se mettait à lancer ça, tout se heurterait très vite à l'exécution, hein, parce que pour passer des mots aux actes, c'est très compliqué. En revanche, en plus, dernier argument, c'est que quand on arrive à l'armée, c'est trop tard, en fait. À 20 ans, si vous voulez, c'est vraiment une rééducation qu'il faut faire, et ça demanderait des moyens énormes pour que l'État remplace tout ce qui n'a pas été fait par les familles et par l'école. Non, ce que je crois, et j'ai entendu, j'essaye de retrouver quel sujet dans le journal m'y a fait penser, mais... Ah bah oui, c'est quand vous avez parlé de ce livre.
Oui.
De ce livre sur l'école.
Oui, oui, que nous allons recevoir tout à l'heure le proviseur. Oui.
Voilà, et il faut bien avouer, cher Patrick, je suis sûr que c'est très intéressant, mais malheureusement... vu mon grand âge, des livres qui parlent de ce qui se passe à l'école et qui disent le désastre, ça n'est pas le premier. Et moi, je crois qu'effectivement, je veux dire, tout le monde sait ce qu'il faut faire, tout le monde sait qu'il faut de la verticalité, de l'autorité, tout le monde le réclame. Donc voilà, je veux dire, je crois que c'est vraiment au niveau de l'école qu'il faut qu'on agisse, mais c'est pas une petite action qu'il faut, c'est vraiment une révolution.
Oui. Alors nous sommes avec Laurent Jeanne, justement, qui est maire de Champigny-sur-Marne, qui est avec nous. Il y a eu cette rixe hier soir entre bandes rivales dans le centre-ville de Champigny. On va prendre des nouvelles avec vous. Bonjour Laurent Jeanne.
Bonjour à vous.
Qu'est-ce qui s'est passé alors précisément hier soir?
Écoutez, hier soir, on a deux jeunes qui, a priori, hein, tout ça est à prendre en conditionnel, l'enquête a démarré seulement hier soir, tardivement, a priori, deux jeunes se sont retrouvés pour une simple histoire de fille, et avec deux jeunes de quartiers différents, et les choses ont dérapé, puisque au-delà de ces deux jeunes, ben, des bandes se sont retrouvées, et ça a été un affrontement entre deux bandes de deux quartiers différents, qui nous a amené à la situation dramatique qu'on a connu avec deux jeunes qui étaient en situation d'urgence absolue à la suite de coups de couteau qui ont été portés, notamment au thorax. Je tiens à remercier ce matin les forces de l'ordre et notamment la police qui, par un massage cardiaque, a sauvé un de ces deux jeunes, dont l'intervention s'est passée cette nuit. Mais pour l'instant, on a des informations plutôt positives ce matin. Il semblerait qu'ils puissent s'en sortir. Donc,
Laurent Jeanne, ces bandes, elles s'affrontent régulièrement, c'est beaucoup dire, mais ça arrive quand même assez souvent qu'elles s'affrontent pour des motifs futiles tels que celui-ci, quoi. Vous avez évoqué.
Écoutez, oui, c'est pas la première fois, hélas. On a connu un phénomène il y a cinq semaines, bon, un peu comme celui de Youri, dont on a beaucoup parlé dans le 15e, d'un jeune qui a été massacré par une dizaine d'autres jeunes d'un autre quartier. Donc on a parfois ces règlements de compte. Ce qui me choque particulièrement, c'est la violence telle qu'elle est exprimée. On a l'impression qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle situation de ce type-là, qu'on monte d'un cran à chaque fois, et avec une incapacité à pleinement pouvoir les gérer. Les maires que nous sommes, on essaye de faire au mieux, on essaye de mettre en place des dispositifs d'alerte, mais on voit bien qu'aujourd'hui, manifestement, ce qui s'est passé hier soir est passé par le biais d'une messagerie cryptée, et on est assez démunis au fond pour pouvoir agir au-delà des questions de prévention.
Oui, alors c'est ça, détecter, avoir de l'alerte. Par exemple, une présence peut-être dans ces quartiers pour... alors avant, on parlait des fameux grands frères. Aujourd'hui, il n'y a plus véritablement ces grands frères. Oui, bah. Est-ce que vous avez des agents, des gens qui peuvent être là dans les quartiers pour vous signaler ce qui peut se passer, ce qui peut se produire, là où il peut y avoir des incidents, quoi, et une mèche allumée?
Bien sûr, on dispose d'un dispositif relativement important, d'un maillage au fond dans ces quartiers, avec des éducateurs, des employés de la ville à travers le service jeunesse, des éducateurs dans les maisons associatives. On a aussi un réseau d'associations qui est particulièrement efficace, mais on le sent bien et les professionnels du secteur qui ont entre 25 et 30 ans disent qu'ils ont de plus en plus de difficultés avec des jeunes de 13, 14, 15 ans. À qui n'arrivent plus à faire entendre raison, et donc on a vraiment besoin d'un système d'alerte et puis continuer à travailler au quotidien pour que les informations nous remontent. Mais là, on voit bien que l'émergence de ces messageries cryptées nous pose une véritable difficulté. Ces éducateurs ont perdu un peu contact avec ces jeunes sur cet aspect-là.
Ah oui, question d'Elisabeth Lévy pour vous.
Oui, bonjour. Bonjour monsieur le maire. Moi en fait ce qui me frappe si vous voulez c'est que on a une sorte de vague. Ça a commencé un peu avec Yuri, on a commencé à parler des bandes et depuis, je ne sais pas si vous en êtes évidemment rendu compte si vous voulez, on a ces batailles entre bandes, des morts, je viens de voir qu'il y avait encore une adolescente trouvée noyée à Argentes, enfin je sais plus dans quelle commune,
voir. Il y a eu l'autre jour aussi, oui.
Est-ce que dans le fond, il y a un espèce d'effet de contagion médiatique? Vous savez, quand on a une vague de violence scolaire, par exemple, quand ça commence dans une école et puis on voit qu'il y en a partout. Est-ce qu'il y a une espèce d'effet d'entraînement par le biais des médias, selon vous ?
Écoutez, sur les informations dont je dispose, sur les événements qui sont produits hier soir, comme il y a 5 semaines, je crois que c'est pas en lien du tout avec une vague médiatique. Mais c'est vrai que la vague médiatique ne peut que pousser à ce genre d'attitude, avec un défi entre bandes de différents quartiers, ou voire de différentes villes. Hein. On a aussi ces phénomènes au-delà des limites territoriales d'une commune. La difficulté que l'on a, c'est aussi de faire passer des messages d'apaisement. Donc là, c'est ce qu'on fait depuis hier soir et ce matin, à travers un réseau qui existe pour appeler à l'apaisement de tout le monde et qu'on n'ait pas cet embrasement qui peut aller beaucoup plus loin encore dès aujourd'hui ou dans les prochains jours.
Oui. Merci beaucoup Laurent Jeanne, maire donc de Champigny-sur-Marne dans le Val-de-Marne, d'avoir été avec nous ce matin pour le petit déjeuner d'actualité que l'on va poursuivre dans un instant d'ailleurs avec Éric Revel, Elisabeth Lévy. Vos questions évidemment aussi, 0826 300 300, ou vos interpellations, vos réflexions sur la vaccination des soignants, sur les médecins généralistes, sur ces violences en fait dans les quartiers, les violences qu'on abordera aussi à travers le livre et le proviseur que l'on va recevoir tout à l'heure, Patrice Romain, requiem pour l'éducation nationale, un chef d'établissement qui dénonce, parents et professeurs qui doivent savoir. Et également, il y a cet autre sujet qui fait toujours réagir dans l'actualité ce matin, la guerre déclarée, entre guillemets, entre Meghan Harry et la couronne britannique. À tout à l'heure.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
9h05, merci d'être avec nous. Dans un instant, la suite du petit déjeuner de l'actu avec Elisabeth Lévy, Éric Revel, vos appels 0826 300 300. On va revenir dans quelques instants sur l'interview de Meghan et Harry. En attendant, vos témoignages avec Daniel qui nous appelle de Tarbes. Bonjour Daniel.
Bonjour à vous.
Bonjour. Qu'est-ce qui vous fait réagir, vous, dans l'actualité, mon cher Daniel, ces derniers temps ?
Alors moi, ces derniers temps, c'est vis-à-vis de la vaccination, mais ça peut être étendu au niveau du passeport sanitaire. Alors d'abord, je vais commencer par dire que, comme disait la grande phrase, c'est je ne suis, par rapport à la vaccination, je ne suis ni pour ni contre, bien au contraire.
Bon, d'accord.
C'est-à-dire, je vous explique, moi, j'ai mes parents qui sont âgés, qui ont plus de 80 ans, qui sont doublement vaccinés sans problème, et ça ne pose pas de problème, c'est des personnes à risque et ça me paraît normal.
Oui.
Par contre, il y a deux points que je ne comprends pas, que j'aimerais bien votre éclairage dessus. C'est que, premièrement, depuis le départ, les vaccins, et vous pouvez aller voir le résultat des études en anglais sur le Lancet de Pfizer, quand ils ont demandé leur autorisation, ils disaient clairement qu'ils ne savaient pas, au niveau de la contamination, si le vaccin l'empêcherait. Et mon deuxième point, c'est Israël, puisque là, on a du recul. Je suis allé voir les chiffres hier soir. C'est tout récent. Il y a 51% de la population qui a déjà reçu une première dose. Il y en a 42% qui a reçu les doubles doses. Et si vous allez voir purement les chiffres des nouveaux cas positifs confirmés par jour en Israël, ils sont à plus de 1800 cas par jour. Ils ne sont même pas revenus au niveau de novembre avant la vaccination. Donc, partant de là, la vaccination obligatoire, la vaccination n'empêche pas la contamination. Donc, je ne comprends pas pourquoi on imposerait ce choix de vaccination ou même un passeport sanitaire pour aller manger, puisque de toute manière, le fait d'être vacciné, a priori, de ce qu'on peut voir par rapport à Israël, n'empêche pas la contamination.
Alors, c'est vrai. Alors moi, je suis pas un spécialiste, mais je suis comme vous, et journaliste, et j'essaie d'aller fouiller un petit peu partout. Visiblement, pour ce qui est d'Israël, d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est que quand même, c'est en train de se stabiliser, et que par la suite, évidemment, ça n'est pas efficace du jour au lendemain, mais que ça progresse. En revanche, il y a les chiffres aux États-Unis qui sont assez impressionnants. Hein. On est à pas loin de 100 millions de personnes vaccinées, et les chiffres ont énormément baissé ces derniers jours et ces dernières semaines, à tel point donc que les gens vont pouvoir de nouveau ressortir pour certaines réunions, par exemple, sans les masques, avec toujours un peu de gestes barrières, mais en prenant un peu moins de précautions qu'auparavant. Donc, et c'est la même chose en Grande-Bretagne, hein, où il y a moins de panique, alors que, je ne sais pas si vous vous souvenez, Daniel, mais au moment de Noël, alors qu'il y avait l'apparition du variant britannique, c'était la panique totale à Londres. Donc, vous voyez, c'est vrai qu'on, d'une manière générale, on n'a pas trop de recul par rapport à ça. Et donc, c'est comme dans une situation, en fait, un peu de guerre, où il faut être capable, à tous les niveaux, que ce soit dans les traitements, dans les autres moyens de stopper la propagation du virus, qu'il faut faire quelque chose, quoi. Mais après, moi, je comprends, en fait, toutes les réserves, bien sûr, qu'il y a, mais à un moment donné, il faut quand même passer à l'action, parce que sinon, vous comme moi, on ne pourra plus rien faire, quoi.
Mais si vous voulez, je conteste pas, et la preuve, c'est que je parle par rapport à mes parents, mais ouais, je comprendrais qu'on vaccine les personnes à risque, puisque par contre, ça fait un an que l'épidémie a commencé, oui. Globalement, les personnes à risque, les populations à risque, on les connaît.
C'est si vrai, sauf que, je ne sais pas si vous avez entendu, si vous étiez avec nous, Daniel, tout à l'heure, à 8h10, on avait un médecin, un chef de service du côté de Levallois-Perret, en région parisienne, et il nous disait qu'il voyait apparaître des jeunes, des populations un petit peu plus jeunes, et qui n'étaient pas forcément à risque, et qui étaient aujourd'hui en réa, et qui étaient en grande souffrance, quoi. Moi, ça m'étonne toujours un peu, parce que je vois quand même que c'est davantage des personnes qui sont en difficulté, hein, qui ont des problèmes, des comorbidités, etc., et qui, d'un point de vue sanitaire, ont quelques problèmes, mais visiblement, parfois, le corps réagit mal, quoi, aussi, au virus, et peut un peu vous chambouler. Donc, quoi qu'il en soit, il faut essayer de trouver une solution, quoi.
Ben, si vous voulez, clairement, je peux comprendre qu'on peut avoir des surprises à tout moment, hein, ça varie, on peut avoir des évolutions, ça, c'est compréhensible. Après, globalement, on a un recul d'un an depuis le début sur tous les pays du monde. Donc, globalement, les principales populations à risque, on les connaît. Il peut y avoir des évolutions à surveiller, effectivement, mais après, la vaccination, on nous dit, ça a baissé énormément chez les Américains. Est-ce que vous êtes allé voir le nombre de tests qu'ils ont effectués? Parce que quelque part, le nombre de cas positifs qu'on trouve, ça dépend du nombre de tests.
Ah ben non, mais vous avez vu, ils ont des tests simplifiés qui vont beaucoup plus vite aujourd'hui. Ce qu'on devrait avoir d'ailleurs en France depuis longtemps, hein, on ne cesse de le réclamer, et ça permettrait quand même de vérifier un petit peu plus, parce que là, on a eu cette opération gadget hein, dans l'éducation nationale, des tests, de certains tests simplifiés, sauf que comme il n'y en a eu que Epsilon, c'est-à-dire moins de 300 000 d'ici mi-mars, ça ne sert à rien quand on sait les millions d'élèves que l'on a dans nos école, quoi. Mais bon.
Ben, si vous permettez, après, je vais pas rentrer dans la polémique des tests.
Non, c'est vrai.
Mais après, il faut se poser la question de savoir si le thermomètre est au même zéro partout. Parce que
c'est peut-être
plus simple, mais est-ce qu'ils n'ont pas moins de positifs trouvés derrière.
Vous voyez
ce que je veux dire? On peut comparer que des choses qui sont testées identiquement.
Ouais, non mais ça c'est vrai. Bon, moi je
suis assez circonspect, si vous voulez, derrière qu'on passe sur les choix personnels de santé en disant vaccinez-vous pour protéger les patients dans les hôpitaux. Parce que le départ, ça a été l'étude sur l'augmentation des maladies nosocomiales dans les hôpitaux et notamment du Covid.
Ce qui continue d'ailleurs. Ouais,
mais quelque part, dans l'hôpital sont rassemblés tous les malades du Covid. Donc, quelque part, qu'il y ait plus de contamination, ça ne me choque pas.
Non,
mais de là à dire que c'est la faute des soignants, quelque part, et qu'il faut qu'ils soient obligatoirement vaccinés, c'est un raccourci qui me paraît trop simpliste.
Oui, c'est vrai. Vous n'avez pas tort à ce niveau-là. Après, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut se donner tous les moyens de mettre fin quand même à ce Covid. Alors, on ne va pas le faire, hein, parce qu'il y aurait une solution radicale, hein, on la connaît. C'est 15 jours de confinement dans le monde entier, on ne bouge plus, comme l'ont fait les Chinois ou les Vietnamiens, et ensuite c'est terminé, le virus ne circule plus. Mais ça, on le fera pas. Donc c'est pas la peine, en plus on n'est pas assez
discipliné.
C'est radical, mais à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut, parce qu'on n'a pas envie de vivre en permanence avec de cette manière. Vous êtes d'accord avec moi, Daniel ?
Personne, je suis d'accord, mais on peut aller aussi vers autre chose, c'est regarder le Japon. qui effectivement ont les gestes barrières, etc., mais par contre n'appliquent que le confinement des gens malades.
Oui, oui, bien sûr.
Et je suis désolé, mais ils sont 120 millions, ils sont le double de notre population, ils ont 6 000 morts depuis un an.
Mais ils ont été, c'est vrai, mais ils ont été moins malins que les Chinois, que les Vietnamiens ou que Taïwan, qui eux l'ont complètement ont réussi à avoir moins de 100 morts, par exemple au Vietnam. Il y a 98 millions d'habitants, il y a moins de 100 morts. C'est voisin de la Chine. Donc, quelque part...
Il faudrait peut-être une politique d'isolement, surtout.
Alors, c'est vrai qu'il peut y avoir d'autres...
Plein de facteurs différents.
Oui, c'est vrai. Bon, bah Daniel, merci de votre appel. Comme Daniel, vous voulez réagir sur l'actualité, vous nous appelez 0826 300 300. Tout à l'heure, on va parler de l'éducation nationale. Oui, et pour l'instant aussi d'un sujet qui divise un petit peu, finalement. Hein. C'est les révélations autour de Meghan et Harry.
Et Jérémy Stubbs est avec nous pour en parler.
Oui, Eric Revel et Elisabeth Lévy. Jérémy Stubbs, bonjour.
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 Bon,
bonjour.
Vous êtes journaliste britannique. Est-ce qu'on est vraiment choking en Grande-Bretagne par ces révélations ?
Il est vrai que ça a provoqué beaucoup de remue-ménage et évidemment, les médias adorent ça.
Ouais.
Donc, ça fait la une partout. Tous les journaux télévisés, on parle, c'est partout.
Ouais.
Est-ce qu'on prend parti pour le clan de la reine ou plutôt pour le clan de Harry et Meghan ?
Je pense que l'émission, l'interview donnée par le couple est surtout faite pour le public américain, là où ils vivent maintenant. Mm-hmm. Et donc aux États-Unis, apparemment, la plupart des gens sont pour Harry et Meghan. En revanche, au Royaume-Uni, on est un peu plus sceptique quant à ce qu'ils disent. Donc là, je dirais que majoritairement, c'est plutôt le camp de la reine.
Oui, parce que c'est vrai qu'il y a certaines affirmations, mais on se demande si c'est quand même... ça ressemble un peu à du règlement de compte, la suspicion de racisme. On se demande qui a prononcé éventuellement ces paroles et est-ce que ça va jusque-là. Enfin, c'est assez étonnant quand même, non ?
Ah, c'est un règlement de compte total. C'est un règlement de compte à hockey choral. Hein.
Ouais.
C'est une sorte de western, si vous voulez. Il est vrai que quand on écoute attentivement les témoignages de Meghan et de Harry, ils ne sont pas concordants. Parce que quand Meghan parle, elle parle de plusieurs conversations au pluriel.
Ouais.
Avec des personnes au pluriel. Et quand Harry arrive, il évoque une conversation avec une personne.
Ouais.
Donc, il est comme ils vivent en couple, tous les deux, on imagine qu'ils auraient pu mieux se concerter pour leur témoignage. Donc ça évoque un doute.
Ouais.
Et qu'est-ce qu'il risque, justement
Dans tout ce qu'ils disent, Harry et Meghan, ils essayent de protéger la reine. La reine a froid là-dedans, la reine est accueillante, la reine est sympa. Mm. C'est comme s'il y avait une stratégie un peu compliquée pour descendre en flamme l'institution, mais protéger la reine elle-même. Ils parlent beaucoup du fait que leur fils n'a pas reçu de titre. D'une manière un peu sournoise, ils insinuent que c'est parce qu'il n'aurait pas été 100% blanc.
Ouais.
Et pourtant, les règles de la succession et des titres de courtoisie établis par le roi George V en 1917, si j'ai bonne mémoire, sont très claires. Et le petit, pour l'instant, il n'aura pas de titre. C'est juste comme ça.
Ouais.
Mais ils mettent tout ensemble pour créer un récit qui met en cause la famille royale.
Et pourquoi le petit n'aurait pas de titre selon ces règles, justement, Jeremy Stubbs ?
Parce que c'est l'arrière-petit-fils.
Oui, c'est ça.
De la reine et pas le petit-fils.
Oui.
Il pourrait avoir un titre quand son grand-père, Charles, devient un roi.
Ouais.
Si Charles devient un roi.
Ouais. Ouais. Non, mais c'est ça. Question d'Elisabeth Lévy, spécialiste en couronne royale également. Éric Revel qui est avec nous.
Couronne dentaire. Ouais, ouais.
Cher Patrick, plus que vous sur les règles de succession.
Bah hein, oui, je vois. Je vois.
Bonjour Jérémy, je me permets de dire que Jérémy est rédacteur en chef de Causeur. Hein, c'est notre anglais. Bonjour Jérémy. En fait, la question que je me posais, c'est est-ce que dans le fond, c'est scandale aujourd'hui, dans un monde qui est très médiatique, où il faut quand même alimenter un peu la bête. Est-ce que ces scandales ne font pas partie, je veux dire, de l'histoire de la famille royale, et est-ce qu'ils sont vraiment dangereux pour elle ?
Je pense que tu as complètement raison. Ça fait partie de l'histoire, et même de l'existence de la famille royale. C'est totalement comme un épisode de The Crown.
Ouais,
et je pense que dans leur scénario, Harry et Meghan ont calqué un peu leur récit sur quelques épisodes de The Crown, la dernière saison.
Ah, carrément. Éric Revel, peut-être une question de votre côté, Éric. Oui,
ouais, alors moi, je vais faire une remarque à Jérémy que je vais choquer forcément, parce qu'avec son délicieux accent anglais, il va trouver ma remarque complètement déplacée, mais franchement, je m'en tape un peu, si vous voulez. Ouais. Mais je vais vous dire pourquoi, parce qu'en fait, on auto-alimente le business de la famille royale en relayant ce genre de propos. Bon, moi, je m'en fiche un peu, si vous voulez, je vous le dis franchement. Mais en revanche, où j'en veux un peu à Madame Meghan, c'est que, elle, finalement, grâce à ce qui lui est arrivé, le fait d'avoir épousé un prince, etc., en fait, elle va pouvoir monnayer tout ce qu'elle veut. Donc, elle se plaint de ce qu'il a fait, de ce qui va la faire riche. Et ça, c'est quand même un sujet. Ouais. Pour le reste, je vais vous dire, bon, je me suis arrêté au drame de Lady Diana. Depuis, j'ai du mal à suivre quand même ce qui se passe dans cette famille royale.
Vous êtes le seul.
Je respecte beaucoup la reine. Mais franchement, il y a quand même d'autres sujets en ce moment que
mais ça passionne les gens.
Mais derrière ça, il y a quand même aussi les changements dans notre société, quoi. Bien sûr, qui apparaissent au grand jour, quoi. Puisque là, on parle en fait de racisme, de clivage qui se font derrière cette histoire. C'est en cela aussi que elle peut illustrer. Ah bah si.
Racisme. Non mais d'accord. On ne sait pas qui a dit ça.
Bien sûr.
En tout cas, le mot est jeté.
Parce que c'est un business. C'est un business formidable.
Ah bah plusieurs millions de dollars. Plusieurs millions de dollars.
Non mais ils lancent une entreprise. J'ai lu que elle pourrait avoir des visées politiques aux États-Unis. Enfin, c'est un formidable business.
Vous voyez. Il y a une signification.
Ce que je veux dire, c'est qu'on mord à la part, cher Patrick. On mord à la part parce qu'en fait, dans cette interview, j'imagine que la star américaine a dû leur demander. Au fait, vous allez dire quoi exactement? Oh oui, ça formidable. Vous allez parler de ça, extraordinaire. Rajoutez-en un tout petit peu sur ce chapitre-là, et c'est parfait. Et donc, la machine est lancée. On en parle. On vend des journaux. On va vendre bientôt des tasses à l'effigie du petit prince qu'on n'est pas encore un et qui en sera un bientôt.
Mais ça fait marcher l'économie.
Quand Charles sera devenu roi. Mais je suis d'accord, mais je trouve qu'il y a des sujets lourds à gérer en ce moment. Si
non, mais quand même. Je peux dire un mot.
Éric,
évidemment, que c'est un business. D'abord, moi, je suis frappé par le fait que ça suscite la passion dans le monde entier, même si vous ne vous y intéressez pas. Mais aussi, il me semble qu'on a aussi une fascination pour cette institution et en quelque sorte une sorte d'envie parce que nous, dans le fond, si vous voulez, depuis que nous avons perdu nos rois, qu'on les a décapités, alors pas depuis, on a un problème d'incarnation.
On a un problème de quelqu'un
qui incarne l'unité. Et dans le fond, si vous voulez, cette famille royale qui tient quand même, enfin cette institution qui tient quand même depuis assez longtemps, elle reste très populaire, non, Jérémy ?
Non mais Elisabeth, moi, le constat que vous faites, il est évident. C'est pour ça que la France est plongée dans une constitution monarchique. C'est pour ça que le chef de l'État, c'est un peu le roi républicain, on l'a dit, etc. Donc c'est vrai qu'on a dans l'inconscient collectif un problème depuis qu'on a décapité notre dernier roi trônant. Je suis d'accord. Mais pour le reste, j'ai vraiment le sentiment, si vous voulez, que même si ça passionne les foules, parce qu'il faut bien combler son vide personnel pour beaucoup de gens. Donc parler de la famille royale.
Ce qui passionne, c'est l'ascenseur social aussi, Eric, de cette jeune fille.
L'ascenseur social.
Bah oui, je suis désolée. Cette jeune fille, voilà, qui était une petite actrice.
Elle était actrice.
C'est My Fair Lady, en fait.
C'était pas non plus une superstar, Patrick, aux États-Unis.
Non, ben voilà, c'est devenu une superstar. Donc en fait, elle crache sur la main qui l'a fait superstar.
C'est ça.
C'est ça qui me gêne. Voilà, c'est tout. Le reste, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Enfin, vous voyez, c'est... Mais Elisabeth a raison sur un point central. C'est que, évidemment, on est en manque d'incarnation, on recherche une incarnation en France, et que cette famille royale a assuré une grande stabilité. D'ailleurs, je vous rappelle quand même, hein, que quand la reine a parlé, vous vous souvenez, il y a quelques mois sur la crise sanitaire, tout le monde l'a écouté, j'allais dire religieusement, et tout le monde a trouvé son discours tellement ramassé, tellement synthétique, tellement puissant, qu'on en vient effectivement à se dire, tiens, on aimerait, nous, avoir des prises de parole aussi courtes, aussi tranchantes.
Oui.
Donc je ne remets pas du tout en cause cette famille royale. Je dis simplement que, bon, ok, ils vont nous faire pleurer dans les chaumières, mais enfin, vous avez des tas de gens, si vous voulez, qui souffrent, qui sont à la rue, et qui entendent cette dame expliquer que peut-être... Eric. Moi, ça me fait
Mais il en faut pour tout le monde. Allez, merci.
Absolument.
Merci, Eric Revel, Elisabeth Lévy, Jeremy Stubbs. Oui, on aurait pu. Richard, notre technicien qui est des origines anglaises, aurait pu nous mettre le God Save the Queen.
Ah,
ben bon, voilà, il nous le mettra à la fin d'émission tout à l'heure. Dans un instant, changement de décor.
Ah ben, changement de décor. On part dans l'éducation nationale avec Patrice Romain, qui est instituteur et maintenant aujourd'hui directeur d'école à la retraite. Un chef d'établissement dénonce parents et professeurs doivent savoir. Vous allez voir, c'est édifiant. Les problèmes de laïcité, de gouvernance, les problèmes de violence dans les établissements, on en parle dans un instant, il est 9h23.